Oui, c'est ça notre prière. Nous voulons que le Seigneur nous instruise au travers de sa parole qu'il nous envoie ce matin. Et avant que nous puissions plonger nos regards dans les Écritures, je voudrais souhaiter à chacun d'entre vous une excellente année 2019, pleine de grâce, pleine de bénédictions, pleine de la faveur de Dieu, une année de croissance et une année de bons fruits. Et je voudrais vous souhaiter ces vœux de bonne année avec le verset de Malachie 3, verset 20, qui dit « Mais pour vous, cependant, vous qui m'êtes fidèles, pour vous se lèvera le soleil de justice qui portera la guérison dans ses rayons. » Que pour chacun d'entre vous, cette année soit une année où le soleil de justice, notre Seigneur, vous apporte la guérison dans ses rayons, la restauration, la joie, la paix, et qu'il nous permette de vivre cette année avec lui. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire deux textes dans les Écritures. Le premier dans Luc chapitre 23. Luc chapitre 23, et là nous allons lire les versets 50 à 56. Luc 23, 50 à 56. Il y avait un homme appelé Joseph, un membre du grand conseil des Juifs. C'était un homme bon et droit qui n'avait pas approuvé la décision ni les actes des autres membres du grand conseil. Il venait d'Arimathée en Judée et attendait le royaume de Dieu. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Après l'avoir descendu de la croix, il l'enroula dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé en plein rocher où personne n'avait encore été enseveli. C'était le vendredi avant le début du Shabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau et observèrent comment le corps de Jésus y avait été déposé. Ensuite, elles retournèrent chez elles et préparèrent des huiles aromatiques et des parfums, puis elles observèrent le repos du Shabbat comme la loi le prescrit. Amen. Et un deuxième texte dans l'Épître de Jacques. L'Épître de Jacques, chapitre 5. Et là, nous allons lire les versets 17 à 18. Jacques 5, 17 à 18. Il est écrit « Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produisit ses récoltes. » Amen. Le thème de ce matin, c'est « Écris ton histoire avec le Seigneur. Écris ton histoire avec le Seigneur. » Ou alors, en 2019, écris ton histoire avec le Seigneur. La Bible est un livre qui est fait de... C'est une bibliothèque, en fait. La Bible, c'est un livre fait de tout un ensemble de livres historiques, de lettres, de poèmes, de livres juridiques. On a dans la Bible toutes sortes de livres. Et au travers de ces livres-là, on a à chaque fois la description de personnages hauts en couleur. On a dans la Bible des personnages qui sont tout à fait extraordinaires, des personnages impressionnants. Et c'est ça, du début de la Genèse à l'Apocalypse, on nous décrit des personnages qui ont fait des grandes choses, qui ont eu un grand impact dans le monde, qui ont été des gens extraordinaires et qui ont fait des choses que d'autres n'ont pas fait. On nous présente toujours des hommes, des femmes grands. Et on peut prendre tant d'exemples dans la Bible. Prenons l'exemple d'Enoch. Enoch, dont il nous est dit qu'il a vécu sa vie sous le regard de Dieu et qu'il a tellement été approuvé par Dieu qu'il n'a pas connu la mort parce que Dieu le prit. Enoch, quel grand homme. Prenons l'exemple de Noé qui, lui, s'est distingué de tous ses contemporains par son attachement à Dieu et il a été choisi pour être le nouveau plan par lequel le nouveau monde viendrait. C'est par Noé, ce grand homme. Waouh, impressionnant. Dans tous ses contemporains, on nous dit que celui-là, c'était un homme qui craignait Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham, cet homme qui a quitté tout ce qui était à lui, tous ses repères, pour suivre Dieu, et qui est devenu par là le père de la foi. Le père de la foi. On peut aussi parler de Moïse. Moïse, homme puissant en acte et en parole, qui a été pendant des années le berger du peuple d'Israël, un homme qui était en même temps un homme puissant, un guerrier comme on n'en faisait pas, mais en même temps un homme doux, un homme humble, un homme fidèle. La Bible dit qu'on n'en a pas connu d'autre, de plus humble, de plus doux, de plus fidèle sur toute la terre, Moïse. Et on nous dit même au sujet de Moïse qu'il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. L'homme qui, dans l'Ancien Testament, a été le plus près de la présence de Dieu. Moïse, Josué, qui a fait arrêter le soleil. On nous parle de David, qui, dès sa jeunesse, a abattu le géant Goliath. David, dont on nous dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Tellement approuvé par Dieu, que Dieu a fait avec lui une alliance éternelle, et que c'est par lui, dans sa descendance, que le Messie est venu. Tellement de personnes, et on pourrait multiplier les exemples dans la parole de Dieu, de personnages hauts en couleur. Et pourtant, lire l'histoire de toutes ces personnes, de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui ont fait des grandes choses, ne doit pas nous faire oublier que chacun d'entre nous, nous sommes des héros de la foi, et chacun d'entre nous, nous avons à écrire notre propre histoire avec le Seigneur. Nous ne sommes pas appelés à simplement regarder les yeux, waouh, qu'ils sont beaux, et Moïse, et David, et Déborah, et l'apôtre Paul, et Pierre, qu'ils ont fait des grandes choses. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à écrire notre propre histoire avec le Seigneur. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à avoir un impact là où Dieu nous a placés et à faire son œuvre, à écrire notre histoire avec lui. Et à être, nous aussi, des héros de la foi à notre échelle. Et le texte qu'on a lu de Jacques, il nous dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Il n'y avait pas des hommes de haut niveau, des hommes qui ont été conçus extraordinaires, et puis des autres qui sont complètement nuls. Le texte nous dit qu'il avait la même nature que nous et qu'il a simplement utilisé les principes que Dieu a établis. Il a prié. Et Dieu a exaucé sa prière. Un homme de la même nature que toi. Un homme comme nous. La Bible nous enseigne à quel point nous sommes appelés, nous aussi, à écrire nos pages avec le Seigneur. Écoutez Éphésiens 2:10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous, chacun d'entre nous, nous sommes son ouvrage et nous avons été appelés à des œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Il y a des œuvres préparées d'avance pour chacun d'entre nous et lorsque nous entrons dans ces œuvres que Dieu a préparées d'avance, nous écrivons nos pages. Nous écrivons nos pages, nous écrivons notre histoire avec le Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 9 nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu ». Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu n'écrit pas l'histoire de l'humanité tout seul. Dieu n'écrit pas l'histoire du salut tout seul. Il l'écrit avec chacun de ses enfants. Chacun de ses enfants qui rentre dans son plan, qui rentre dans ses œuvres préparées d'avance, participe au grand projet de Dieu. Chacun d'entre nous, à notre mesure, nous participons au grand dessein de Dieu. Au grand projet de Dieu, à la grande histoire de Dieu. Nous écrivons nos quelques petits mots dans ce livre que Dieu écrit. Écrire notre histoire avec le Seigneur, ça signifie que chacun d'entre nous a un parcours, un plan particulier prévu par Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une vie particulière. Et pour chacun d'entre nous, Dieu a un plan particulier. Écrire notre histoire avec le Seigneur, ça veut dire que chacun de nous est essentiel. Unique, important dans le plan de Dieu. Nous devons être conscients que notre vie a un sens et qu'elle s'inscrit dans un projet qui nous dépasse de loin. Un projet qui nous dépasse de loin. Des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et nous écrivons notre histoire avec le Seigneur d'une façon différente. Certains vont écrire leur histoire avec le Seigneur dans l'anonymat le plus complet. Peut-être que jamais il y aura un livre à leur sujet, peut-être que dans ces bibliothèques, il n'y aura jamais un livre qui racontera ce que tu as fait dans ta vie. Tu seras un anonyme, mais tu auras aussi écrit ton histoire avec le Seigneur. Peut-être que certains d'entre nous vont écrire leur histoire avec le Seigneur dans la normalité, sans faire des choses qui sont extravagantes, impressionnantes. Et peut-être que d'autres vont écrire leur histoire avec le Seigneur d'une façon plus visible, plus honorée. Mais ça reviendra toujours à la même chose. Nous serons entrés dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Il y a une grande mission de Dieu. Il y a un grand projet de Dieu. Et ce projet, il le commence depuis le Jardin d'Éden, lorsqu'il confie à Adam cette responsabilité de garder et de cultiver le jardin. C'est-à-dire que le monde tel que nous le voyons, le monde développé tel que nous le voyons, est le fruit de la volonté de Dieu. Dieu a voulu que l'humanité se développe. Dieu a voulu que cette terre se développe, que la technologie se développe, que la culture se développe, que la société, que la médecine. Donc chacun d'entre nous, nous participons déjà au grand projet de Dieu parce que nous faisons dans la société. Chacun d'entre nous, lorsque nous allons travailler et lorsque nous faisons un travail d'infirmier, de médecin, d'informaticien, d'éducateur, quel que soit ce que nous faisons, nous participons déjà à ce grand projet de Dieu qui consiste au développement humain intégral. Dieu veut que l'humanité se développe. Chacun d'entre nous, nous participons au deuxième grand projet de Dieu, parce que le premier projet de Dieu, c'est la promotion humaine intégrale, comme on dit en théologie. Et ensuite seulement, c'est le salut. Donc avant même le péché, Dieu avait un plan de cultiver, de garder, de développer ce jardin. Et après le péché, évidemment, son plan est devenu aussi de réconcilier toute l'humanité avec lui. Mais donc nous participons au plan de Dieu dans ce développement humain intégral, mais nous participons aussi au plan de Dieu dans ce plan du salut. Ce plan par lequel il veut sauver l'humanité. Nous participons au plan de Dieu. C'est Newman, un théologien, qui dit « J'ai été créé pour faire ou pour être quelque chose pour lequel personne n'a jamais été créé. Peu importe que je sois riche ou pauvre, méprisé ou estimé des hommes, Dieu me connaît et m'appelle par mon nom. En quelque sorte, je suis aussi nécessaire à ma place qu'un archange à la sienne. » Chacun d'entre nous est aussi nécessaire à la place où Dieu l'a placé qu'un archange à la sienne. Nous avons chacun une place particulière dans le grand projet de Dieu. Et lorsque nous nous inscrivons dans cette place, lorsque nous prenons conscience de cette place, nous écrivons notre histoire avec le Seigneur. On nous parle dans l'autre texte qu'on a lu dans l'Évangile de Joseph d'Arimathée, un monsieur dont la Bible nous dit que c'était un homme riche, un homme distingué, un aristocrate, un homme qui attendait le royaume de Dieu, un homme bon, un homme juste, un israélite correct, convenable. C'était en fait un disciple de Jésus, mais qui pendant la vie de Jésus ne s'était pas manifesté comme disciple parce qu'il avait peur. Il avait peur des Juifs et donc il était disciple, mais secrètement. Et voilà qu'à la mort de Jésus, Joseph d'Arimathée, cet inconnu, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas s'il avait une femme, s'il était marié, ce qu'il aimait manger, on n'en sait rien, on s'en fiche. Mais ce Joseph d'Arimathée, alors que Jésus est mort, a marqué l'histoire par son acte de dévotion. Alors que Jésus est mort, voilà que Jésus est mort et il va en fait préparer un tombeau qui était le tombeau de sa famille, nous dit la Bible. C'était son tombeau personnel, pas encore utilisé, et il va permettre que le corps de Jésus soit mis dans ce tombeau-là. Il va prendre soin de la dépouille de Jésus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, les gens qui étaient crucifiés, une fois qu'ils étaient crucifiés, on les mettait dans une fosse commune. Vous avez déjà vu une fosse commune? Vous avez déjà vu, par exemple, à Auschwitz, les fosses communes? Ça n'a rien de très glorieux, hein? Donc on les laissait là, les corps morts. C'est pas qu'on leur faisait des embaumements et tout le bazar, on les laissait là. Mais cet homme-là, qui a été pendant toute la vie de Jésus un inconnu, Ça, c'était son heure et il est entré dans l'histoire du salut. Il a écrit son histoire avec le Seigneur. Par sa dévotion, par son engagement, il a permis que le corps de Jésus soit mis dans son tombeau. Un inconnu, comme toi, comme moi, mais qui a pris sa place dans le grand projet de Dieu. Et on nous raconte son histoire dans l'Évangile. Et on a tant d'exemples de gens qui, à leur niveau, là où ils étaient placés, ont écrit leur histoire avec le Seigneur. Rappelez-vous de cette femme dont il est dit que cette femme qui a répandu du parfum devant Jésus, et où il est dit, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Vous imaginez ? Un petit acte, on ne sait pas qui c'est cette femme-là. On n'a pas son arbre généalogique. C'est une inconnue. Mais voilà qu'elle a répandu son parfum sur Jésus et on nous dit que son histoire sera racontée partout où on annoncera l'Évangile. Elle a écrit son histoire avec le Seigneur à son niveau, là où elle était placée. Pour nous, écrire notre histoire avec le Seigneur, ça va vouloir dire des choses tellement différentes. En 2019, peut-être que c'est l'année où chacun d'entre nous devons entrer pleinement dans ce que le Seigneur nous appelle à faire. Pour toi, écrire ton histoire avec le Seigneur, ça peut vouloir dire simplement devenir un étudiant de la parole de Dieu en secret, sans que personne ne le sache, de consacrer du temps à connaître, à apprendre la parole de Dieu. Pour toi, écrire ton histoire avec le Seigneur, ça peut vouloir dire être un super grand-père ou une super grand-mère. Il nous est dit pour Timothée, je garde la foi, je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouvait déjà chez ta grand-mère Loïs et chez ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. La foi de Timothée, elle ne vient pas du ciel. Sa mère, sa grand-mère lui ont transmis cette foi. Et par là, elles ont écrit leur histoire avec le Seigneur. Quel homme Timothée est devenu. C'est peut-être ça pour toi. Être une grand-père, un grand-père, une grand-mère modèle qui transmet l'Évangile à ses enfants, à ses petits-enfants. Peut-être que pour toi, écrire ton histoire avec le Seigneur, ça va vouloir dire devenir un soutien pour les missionnaires, pour les serviteurs de Dieu, un soutien financier, un soutien moral, un soutien spirituel. Pour nous, écrire l'histoire avec le Seigneur, ça peut vouloir dire être une source de consolation pour ceux qui sont autour de nous. Écrire son histoire avec le Seigneur, ça peut vouloir dire être une dame âgée, une vieille sœur, comme on en a chez nous, qui donne des conseils aux plus jeunes. Comme le dit Tite 2, verset 3 à 5, dit que les femmes âgées soient dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari. Donc c'est-à-dire qu'on donne dans le texte une responsabilité aux dames âgées. On ne leur dit pas, vous êtes âgées maintenant, taisez-vous, rangez-vous dans un coin. On leur donne une responsabilité d'enseigner les jeunes femmes. Peut-être que c'est ça pour toi, écrire ton histoire avec le Seigneur. Écrire ton histoire avec le Seigneur, ça peut être pour un jeune chrétien, d'être un jeune chrétien engagé qui fait reculer la noirceur du monde par sa foi, par son engagement, par son témoignage. Écrire son histoire avec le Seigneur, ça peut vouloir dire pour d'autres devenir un évangéliste, un missionnaire, quelqu'un qui consacre du temps à proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Pour d'autres, ça voudra dire servir de tout son cœur dans l'église, dans le nettoyage, dans la musique, dans l'organisation des agapes, dans les présidences, dans le soutien aux faibles. Pour d'autres, ça va peut-être vouloir dire être un modèle d'hospitalité. Ou écrire son histoire avec le Seigneur. Pour d'autres, ça sera de devenir une oreille attentive pour ceux qui souffrent. Pour d'autres, ce sera peut-être d'être un papa modèle, une maman modèle, et que tes enfants puissent dire « J'ai vu Christ dans mon père » ou « J'ai vu Christ dans ma mère ». J'ai appris ce qu'est l'amour en voyant mon père ou en voyant ma mère. Pour d'autres, ce sera d'être une source d'encouragement, une source de joie. chacun d'entre nous, là où nous sommes appelés à écrire notre histoire avec le Seigneur, à avoir un impact là où Dieu nous a placés, à faire la différence là où Dieu nous place. Alors comment écrire cette histoire avec le Seigneur ? Premièrement, trois points seulement. Être fidèle là où Dieu nous a placés. Pour écrire notre histoire avec le Seigneur, être fidèle là où Dieu nous a placés. Comme on le lit dans la Bible, les grands hommes, les grandes femmes qui ont été approuvées par Dieu n'ont pas toujours été des gens qui ont forcément fait des grandes choses. Tout le monde n'est pas appelé à séparer la mer Rouge. Tout le monde n'est pas appelé à faire arrêter le soleil. Tout le monde n'est pas appelé à faire arrêter la pluie. Tout le monde n'est pas appelé à... Mais nous écrivons notre histoire avec le Seigneur quand nous sommes fidèles là où Dieu nous a placés. Fidèles dans la famille dans laquelle Dieu nous a placés pour jouer notre rôle là où Dieu nous a placés. Et pour répandre la grâce, la joie, la paix, le réconfort dans notre famille. Lorsque nous sommes fidèles là où Dieu nous a placés. Lorsque nous sommes fidèles là où Dieu nous a placés dans la société, dans le rôle que nous jouons dans la société, qui peut être d'être un travailleur, être un maçon, un instituteur, un professeur, un boulanger, quel que soit ce que nous faisons. Ou alors d'être un étudiant, un bénévole, un retraité, une mère au foyer, un chômeur, quel que soit ce que nous faisons. Être fidèles là où Dieu nous a placés. Nous écrivons aussi notre histoire avec le Seigneur lorsque nous sommes fidèles là où Dieu nous a placés, dans notre communauté locale. Lorsque nous prenons part à la vie de notre Église et que nous sommes fidèles dans cette Église pour y apporter un plus et pour l'amener à aller toujours plus loin. Dans l'histoire, quand Luther a traduit la Bible, le mot « travail », il l'a traduit par « Beruf ». Et « Beruf », en allemand, ça veut dire « vocation ». Et de là est venue une maxime protestante bien connue qui est « ton travail est ta vocation ». Vous avez déjà entendu ça ? Non. « Ton travail est ta vocation ». Voilà ce que ça a donné la traduction de Luther. Et c'est comme ça, vous savez que dans les pays, les pays où le protestantisme a beaucoup grandi, le travail a vraiment remonté en valeur. Les gens ont vraiment compris la valeur du travail parce que Luther a insisté sur le fait que mon travail est ma vocation. Lorsque j'exécute mon travail séculier dans la société, j'accomplis ma vocation. J'écris mon histoire avec le Seigneur. Je n'écris pas seulement mon histoire avec le Seigneur quand je suis dans l'église en train de prier, en train d'encourager, non. Mon travail est ma vocation. En étant fidèle là où Dieu m'a placé, j'accomplis la volonté de Dieu. Ah, t'es pas missionnaire ? Non. Ah, je pensais que t'allais aller au Gabon ? Non. Je suis institutrice. Ou je suis infirmier. Mais là, j'écris mon histoire avec le Seigneur. Deuxièmement, pour écrire notre histoire avec le Seigneur, prendre place dans le corps au travers de nos dons et de nos capacités. Vous connaissez tous cette image de l'apôtre Paul sur l'Église, quand il la compare à un corps fait de plusieurs membres dans lequel chacun a sa fonction, chacun a son rôle. Et donc dans ce corps du Christ, chacun joue son rôle, chacun joue sa fonction. Personne n'est tout le corps. Personne ne sait tout faire, personne n'a toutes les capacités, mais chacun à son niveau joue un certain rôle. Et c'est en jouant ce rôle-là dans le cœur du Christ que nous permettons à l'Église d'écrire son histoire avec le Seigneur. Cette métaphore du corps du Christ, elle nous apprend que dans l'Église, il y a une diversité de dons, de manifestations, de personnalités, une diversité. Dans l'Église, il y a une dépendance, une interdépendance. Nous dépendons les uns des autres. Personne ne peut dire « moi je sais faire tout seul, j'ai pas besoin de toi ». Nous dépendons les uns des autres. Et que dans l'Église, tout ce qui se passe, tout ce qui se manifeste comme don, doit servir à l'édification commune, dans l'amour. Mais donc cette image du cœur du Christ, elle nous enseigne sur la façon avec laquelle nous écrivons nos pages avec le Seigneur. Lorsque, au travers de ce que Dieu a mis en nous, nous prenons notre place dans ce corps. Et si vous regardez bien, la métaphore du corps du Christ, elle n'est pas seulement ecclésiale, elle est sociale, elle est sociétale. Dans une société, c'est la même chose. Les infirmiers ne peuvent pas se passer des instituteurs, les maçons ne peuvent pas se passer des carreleurs, les carreleurs ne peuvent pas se passer... C'est dans une société aussi. Les politiciens ne peuvent pas se passer des femmes de ménage, les femmes de ménage ne peuvent pas se passer des politiciens. Nous vivons dans une société qui est un corps où tout le monde est important. Deuxième façon pour écrire notre histoire, prendre notre place dans le corps au travers de nos dons et de nos capacités. Dans l'Église, tout le monde est nécessaire, tout le monde est important, tout le monde est spécial et tout le monde est qualifié pour faire quelque chose à son niveau. 2019 est certainement l'année pour certains d'entre nous où nous allons découvrir ce que le Seigneur a mis en nous, pour l'Église, pour les autres. Ou 2019 peut aussi être l'année où nous allons développer ce que Dieu a mis en nous, pour les autres, pour l'Église, pour la société. Prendre pleinement sa place en fonction de ce que Dieu a déposé en chacun d'entre nous. Nos dons, nos capacités, nos... Tout ce que Dieu a mis en nous, 2019 est l'année où ça doit prendre sa pleine expansion. Quelqu'un a conclu, je l'avais déjà dit, a fait cette conclusion de la parabole des talents en disant « On doit toujours rendre plus que ce qu'on a reçu. » C'est certainement l'année où tu dois découvrir ce que tu as reçu et apprendre à exploiter tout ce que Dieu a mis en toi. Pour le bien du corps, jouer son rôle dans l'Église, jouer son rôle dans la société. Écoutez ce que Martin Luther King. Parce que vous savez que Martin Luther et Martin Luther King, c'est pas la même personne. Ça, vous savez ça. Ah, ouf. Il dit ceci. Écoutez bien. Chacun de nous porte en soi, caché au plus profond de lui-même, des forces créatrices. Et nous avons le devoir de les découvrir et de les utiliser. Lorsque quelqu'un a découvert pourquoi il a été créé, il doit mettre en œuvre tout pour réaliser au maximum le plan du Créateur, suivant ses propres possibilités. Il doit essayer de réaliser quelque chose de façon telle que personne ne soit capable de le faire mieux que lui. Il doit le faire comme s'il s'agissait d'une mission spéciale que lui aurait confiée le Créateur, à lui personnellement et à ce moment précis de l'histoire du monde. Personne n'est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel s'il n'a le sentiment d'avoir été spécialement appelé pour cela, en un mot, s'il n'a pas la vocation. Si votre mission est d'être balayeur de rue, vous devez balayer les rues dans le même esprit que Michael lorsqu'il peignait ses toiles, que Beethoven lorsqu'il composait ses symphonies, que Shakespeare lorsqu'il écrivait ses drames. Vous devez balayer les rues d'une façon tellement parfaite que chaque passant puisse dire « Ici, c'est un grand balayeur qui a travaillé, il a bien accompli sa tâche. » Si tu ne peux pas être un arbre sur la colline, sois un buisson dans la vallée, mais sois le meilleur buisson à des lieux à la ronde. Si tu ne peux pas être le soleil, sois une étoile. La valeur ne se manifeste pas aux dimensions. Sois ce que tu es, mais sois-le consciemment. Si tu es balayeur de rue, sois le meilleur des balayeurs de rue que le monde n'ait jamais connu. Quelle que soit la place où Dieu nous a placés, nous sommes appelés à exploiter au maximum tout ce que Dieu nous a mis. Et ça ne vaut pas que pour l'Église, ça vaut pour l'ensemble de notre vie. Et puis troisièmement, pour écrire notre histoire avec le Seigneur, eh bien, nous devons développer une alliance personnelle avec le Seigneur. Développer une alliance personnelle avec le Seigneur. Dans la Bible, on voit combien Dieu fait une alliance collective pour tout son peuple. Mais il fait aussi une alliance personnelle avec chacun. Est-ce que vous voyez que tous les disciples que Jésus avait, il en a choisi 12, à qui il a confié une mission particulière. Et même dans ces 12-là, il ne faisait pas toujours tout avec tout le monde. Lorsqu'il a été sur le mont de la Transfiguration, les 12 n'étaient pas là, ils étaient que 3. Dieu a une alliance personnelle avec chaque, une alliance avec nous en tant que corps, mais il fait aussi une alliance personnelle avec chacun d'entre nous. Et nous devons, en cette année, développer cette alliance personnelle que nous avons avec Dieu. De quoi est faite cette alliance? Cette alliance, elle est faite de l'appel particulier que Dieu t'a donné à toi. Un appel pour un ministère dans l'Église, un appel pour un ministère dans la mission, un appel pour un ministère de miséricorde, quel que soit. Elle est faite premièrement de ce que Dieu t'a appelé à faire toi, personnellement. Cette alliance, elle est faite des choses que Dieu t'exige à toi personnellement. On a dans la Bible toutes sortes d'exemples de gens qui ont reçu des exigences de Dieu personnelles. On pense au don du célibat, qui n'est pas forcément quelque chose de tout à fait personnel. C'est dans son alliance personnelle avec le Seigneur qu'on a ce don, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Dieu peut nous appeler à des choix de vie particuliers, parce que c'est dans notre alliance personnelle avec lui. Notre alliance personnelle avec le Seigneur, elle est aussi faite des récompenses que nous recevrons, mais qui nous sont tout à fait personnelles. On nous parle dans la Bible de la couronne incorruptible, la couronne de justice, la couronne de vie, la couronne de gloire. Mais toutes ces couronnes, elles ne sont pas distribuées. Dieu les donne en fonction de cette alliance personnelle que nous avons avec lui, de ce que nous aurons fait personnellement. Il faut développer cette alliance personnelle avec le Seigneur. Savoir qu'est-ce que Dieu me dit à moi? À quoi est-ce que Dieu m'appelle, moi? Quels sont mes dons à moi? Qu'est-ce que Dieu m'exige à moi? Cette alliance personnelle, elle est faite de ce à quoi nous nous sommes engagés personnellement. Nos vœux, nos engagements qui sont personnels, qui ne sont pas des vœux que tout le monde a fait. On s'est engagé envers un homme en particulier, envers une femme en particulier. David disait, lorsqu'il a été question de bâtir le temple de l'Éternel, « Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté. » Ça, c'est son alliance personnelle avec le Seigneur. C'était son choix. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui ne m'a pas coûté. On a dans l'exemple, dans la Bible aussi, l'exemple de gens qui se sont consacrés particulièrement au Seigneur, comme dans le Naziréat, les gens qui ont consacré une partie de leur vie au Seigneur, mais c'est personnel. Je ne l'impose pas aux autres, c'est pour moi. Chacun d'entre nous, nous avons cette alliance personnelle avec le Seigneur que nous devons découvrir et dans laquelle nous devons entrer. Jésus avait ses 60 disciples, il avait ses 12 disciples, mais il avait aussi ses 3 disciples avec qui il allait, parce qu'il avait une relation personnelle avec eux. Dans Jean 21, lorsque Pierre va être réinstallé dans sa mission, il y avait un disciple à côté, le disciple que Jésus aimait. Et alors, lorsqu'il reçoit sa mission, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et celui-là, que va-t-il advenir de lui ?» Et Jésus lui dit, « Mais t'inquiète pas, toi, viens et suis-moi. » Vous voyez cette alliance personnelle? On s'inquiète, et l'autre, « Non, 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 toi, viens et suis-moi. » C'est ta mission à toi. Nous devons aussi développer cette alliance personnelle avec le Seigneur. Et trop de chrétiens sont trop grégaires, c'est-à-dire qu'ils sont dans le peuple sans avoir découvert, mais c'est quoi ma place à moi? C'est quoi mon alliance à moi? Et alors on s'épuise dans une vie chrétienne, parfois triste. Et donc dans cette alliance personnelle avec le Seigneur, nous allons commencer à développer une consécration particulière. Nous allons commencer à faire des choix particuliers. Pensez aux jours de jeûne. On n'en parle jamais. Jésus parle des jours de jeûne. En fonction de ce que je reçois de Dieu, je peux décider que pour moi, tel jour, je vais jeûner pour me consacrer au Seigneur. Pensez à nos dons financiers. Personne n'a à te dire ce que tu as donné ou ce que tu n'as pas donné. C'est personnel. Notre alliance personnelle avec le Seigneur. Autant que nous consacrons à prier pour les autres. C'est des choses qui sont tout à fait personnelles. Mais nous devons vraiment rentrer dans cette plus grande conscience de quelle est ma place à moi. Quelles sont les lignes que je dois écrire, moi, dans le grand livre de Dieu. Et ensuite, n'oublions pas que Dieu utilise aussi nos limites pour sa gloire. Dieu utilise aussi nos limites pour sa gloire, même nos limites. C'est l'apôtre Paul qui disait qu'il lui a été répondu, « Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose en moi. » Ça veut dire que notre action dans l'Église, dans la société, participe au grand plan de Dieu. Mais même nos limites, Dieu les utilise aussi pour sa gloire. Rappelez-vous, vous connaissez ce Nick, Francis, toi tu le connais, celui qui n'a pas de bras et qui n'a pas de jambes. Tu le connais? Comment c'est quoi son nom? Bah allez, pas pour toi Francis. Oui, tu sais qui c'est, voilà, c'est ce qui compte. Eh bien, il a beaucoup écrit sur cette idée-là, que dans cet état de vie-là, Dieu s'est servi de lui et se sert de lui. Pas de bras et pas de jambes. Et Dieu s'est servi de sa vie pour faire quelque chose. De la même façon pour chacun d'entre nous. Dieu veut se servir de notre vie pour faire quelque chose, pour écrire des pages. À notre échelle, nous ne contrôlons pas tout. Mais chacun d'entre nous, nous avons une part à jouer. Et certainement que 2019 est cette année où nous pouvons ou développer ce que nous avons déjà compris ou alors découvrir ce que nous n'avons pas encore compris. Pour conclure, écoutons ensemble John Newman. Vous ne le connaissez pas, c'est un théologien catholique. Vous ne lisez pas les théologiens catholiques. Vous. C'est ça le problème d'ailleurs. Ils ont une sagesse qu'on ne soupçonne même pas. Ce n'est pas la question. Bon. Alors John Newman, voici ce qu'il dit. Écoutez bien. Dieu m'a créé pour un service précis. Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. J'ai une mission à remplir dont je ne découvrirai peut-être jamais le sens en ce monde, mais dont je serai instruit dans l'autre. Et il redit, « Je suis d'une certaine manière nécessaire à ses plans, aussi nécessaire qu'un archange à la sienne. Même si moi échouant, il peut en susciter un autre, tout comme il pouvait le faire avec les enfants d'Abraham, j'ai cependant un rôle à jouer dans ce grand ouvrage. Je suis un chaînon, un lien entre des personnes. Il ne m'a pas créé pour rien. » Je ferai bien, j'exécuterai la tâche qu'il m'a confiée, je serai un ange de paix, je prêcherai la vérité, sans même le savoir, si j'observe ses commandements et le sers à la place qui est la mienne. Je mettrai donc ma confiance en lui. Qui que je sois, où que je sois, je remplirai mon rôle. Si je suis malade, ma maladie peut le servir. Si je suis troublé, mon trouble peut le servir. Si je suis affligé, mon affliction peut le servir. Ma maladie, mon trouble ou mon affliction peuvent être les moyens nécessaires à l'accomplissement d'une fin qu'il me dépasse. Il ne fait rien en vain. Qu'il prolonge ma vie ou qu'il l'écourte, il sait ce qu'il fait. Qu'il m'enlève mes amis, qu'il me fasse vivre parmi des étrangers, qu'il me fasse goûter l'amertume et la désolation, qu'il me voile l'avenir, il sait toujours ce qu'il fait. Ô Adonai, ô conducteur d'Israël, toi qui guidas Joseph comme le berger sa brebis, ô Emmanuel, ô sagesse, je me donne à toi. Je te fais totalement confiance, tu es plus sage que moi, tu as plus d'amour pour moi que je n'en ai pour moi-même. Daigne, au travers de moi, accomplir tes desseins, quels qu'ils soient. Je suis né pour te servir, être à toi, être ton instrument. Laisse-moi être ton instrument aveugle. Je ne demande pas à voir, Je ne demande pas à connaître, je demande simplement à te servir. Amen. Prions. Notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi, nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour cette année 2019 que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons vraiment te demander la grâce pour chacun d'entre nous, que tu nous aides à entrer pleinement dans ces œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, dans notre famille, dans notre église, dans la société. Tu as un plan pour chacun d'entre nous et tu nous appelles vraiment à être ouvriers avec toi, à être ouvriers avec toi. Aide chacun d'entre nous, Seigneur, à comprendre sa place dans ton plan. Aide chacun d'entre nous à comprendre sa place dans l'Église. Aide chacun d'entre nous à comprendre sa place dans la société, dans la vie. Aide chacun d'entre nous à comprendre ce pourquoi il a été créé. Et aide à chacun d'entre nous d'entrer dans ces plans que tu as prévus d'avance. Te demandons, Seigneur, d'éclairer nos cœurs, d'éclairer nos yeux, de nous aider à voir ta volonté. Et Seigneur, aide-nous effectivement en cette année à écrire notre histoire avec toi, pour ta gloire, pour ta seule gloire. Amen.